Europe 1. Écoutez le monde changer. 15h, 16h. Sans rendez-vous sur Europe 1. Mélanie Gomez.
Bonjour à tous et bienvenue dans Sans Rendez-vous, votre émission santé, bien-être, c'est tous les jours de 15h à 16h. Je suis ravie d'être là en direct avec vous depuis ma chambre pour la dernière fois. D'ailleurs, parce que je ne suis pas mécontente, hein, demain je reprends la route des studios et je retrouverai à bonne distance, bien sûr, le docteur Jimmy Mohamed qui lui est déjà installé dans le studio. Bonjour Jimmy.
Bonjour Mélanie, bonjour à toutes et à tous.
Vous aimez bien me faire râler comme
ça. On est
ça,
bien en studio, on ne va pas se mentir.
C'est ça. Allez, aujourd'hui, pour débuter cette émission, nous vous proposons un entretien qui s'annonce passionnant avec le spécialiste en immunologie, le professeur Alain Fischer. Je ne peux pas vous donner tous ses titres, mais il est notamment professeur au Collège de France et cofondateur de l'Institut des maladies génétiques Imagine. Avec lui, nous tenterons de répondre aux nombreuses questions qui se posent encore autour des patients infectés par le coronavirus et de leur immunité. Sont-ils protégés contre une nouvelle infection? Combien de temps? Comment tester l'immunité d'une personne? Le professeur Alain Fischer va nous apporter des éléments de réponse. Ensuite, vous le savez, dans Sans Rendez-vous, on vous informe tous les jours, mais on essaye aussi de vous faire du bien. Et pour cela, aujourd'hui, Sabine Marin, qui présente la Libre Antenne ici sur Europe 1 le week-end, nous rejoindra. Elle est aussi praticienne en hypnose et elle nous a préparé une petite séance. Vous aviez adoré la dernière fois, alors elle récidive. Vous allez voir beaucoup de détente à venir. Et puis, pour finir cette émission, comme tous les jours, on retrouvera Catherine Blanc, notre sexologue, qui va aujourd'hui répondre aux questions d'un couple encore confiné par choix avec ses enfants, mais qui du coup rencontre certaines difficultés.
Mélanie Gomez vous reçoit Sans Rendez-vous sur Europe 1.
Tout de suite, pour ouvrir votre magazine santé, nous accueillons par téléphone le professeur Alain Fischer. Bonjour.
Bonjour à vous.
Vous êtes professeur d'immunologie pédiatrique à l'hôpital Necker à Paris. Vous êtes professeur au Collège de France et cofondateur de l'Institut Imagine. Professeur Fischer, ici à Europe 1, on a reçu beaucoup de questions. On en reçoit encore beaucoup autour du coronavirus et notamment de l'immunité. Donc vous allez pouvoir nous aider. Vous êtes la bonne personne, c'est certain. D'abord, quand on croise ce virus, on sait, je crois, désormais qu'on développe normalement des anticorps, mais de plusieurs types. Expliquez-nous finalement ce qui se passe le plus simplement possible, bien sûr, quand on est infecté par le SARS-CoV-2.
Oui, évidemment, ces questions sont importantes et on sait aujourd'hui, par les études qui ont pu être menées au cours des dernières semaines, que les personnes infectées par le virus développent des anticorps. Ça prend quelques jours pour le début de cette réponse. Il y a plusieurs types d'anticorps, ce qu'on appelle des immunoglobulines M au début, puis des immunoglobulines G. Et le point le plus important, c'est de savoir si ces anticorps sont protecteurs pour éviter d'être réinfecté en particulier. Et cela se fait par la recherche de ce qu'on appelle les anticorps neutralisants. Neutralisants, ça veut dire qu'ils empêchent l'entrée du virus dans les cellules qu'il est capable d'infecter. Donc ces recherches-là sont plus difficiles, mais des travaux de recherche montrent qu'effectivement, au moins certaines personnes, beaucoup de personnes, peut-être pas toutes, développent des anticorps dits neutralisants, donc protecteurs.
Professeur Fischer, donc tous les patients qui sont touchés par le virus, ils en développent a priori des anticorps neutralisants, mais le problème, je crois, c'est que ce n'est pas forcément à la même dose, hein, c'est ça ? C'est ça qui fait la différence d'immunité éventuelle ?
Non, d'abord, ce n'est pas complètement sûr que tout le monde développe des anticorps neutralisants, et ensuite, effectivement, il y a une question de quantité, un peu de qualité aussi, c'est-à-dire quelle est l'affinité, avec quelle force ces anticorps, ces molécules se fixent sur les composants du virus. Là, il y a des éléments de variabilité qui sont loin d'être encore tous connus.
Docteur Jimmy Mohamed.
Ça veut dire que, par exemple, les personnes qui sont asymptomatiques, on estime que 50% d'entre elles qui sont touchées ne vont pas développer de symptômes, sont peut-être pas immunisées ou moins bien immunisées. Est-ce qu'on a un petit peu de recul à ce propos?
Ils sont peut-être moins bien immunisés. Ils mettent plus de temps à développer des anticorps, apparemment. Et il est possible, mais je pense qu'il faut attendre plus de résultats d'études en cours, que ceci ait une chance un peu moins bonne de développer des anticorps protecteurs. Mais on manque de recul pour répondre précisément à cette question.
Professeur Fischer, est-ce qu'on sait au bout de combien de jours, en moyenne, alors vous avez dit ceux qui ont eu des formes sans symptômes mettent peut-être plus de temps, mais combien de jours en moyenne après le début de la maladie on peut estimer qu'on est porteur d'anticorps justement ?
Les premiers anticorps sont détectés environ, avec une certaine variabilité, une semaine après le début de l'infection.
D'accord. Jimmy.
Et ceux, par exemple, qui ont été malades au mois de mars, on ne va pas parler des formes légères, des formes modérées peut-être à sévères, est-ce qu'on sait maintenant s'ils sont encore protégés ? Est-ce qu'on a une petite idée de savoir si, au moins pour cet été, ils seront peut-être un peu moins contagieux, un peu plus protégés que les autres ?
Je pense que là aussi, il faut attendre plus de données. Je suis désolé, mais
On peut penser que les personnes qui ont développé en quantité relativement importante des anticorps dits neutralisants, j'insiste sur cette notion, auront encore des anticorps cet été. Se pose néanmoins la question de la durée, de la persistance de ces anticorps. Est-ce que c'est 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans ? Par définition, on n'en sait rien aujourd'hui et ce sont des études extrêmement importantes directement pour les patients qui ont été infectés, les individus qui ont été infectés, et puis pour la préparation des vaccins.
Professeur Fischer, on ne sait pas exactement combien de temps ça dure, mais on connaît quand même les coronavirus, c'est-à-dire bien sûr celui-ci, il est totalement nouveau. Est-ce qu'on a une idée du recul au moins sur les autres coronavirus et sur le temps d'immunité, la durée d'immunité qu'ils peuvent apporter les autres ? On a dû les étudier d'un peu plus près que celui-ci.
Oui, vous avez raison. En fait, dans les autres coronavirus, il y en a 6 exactement qui, à ce jour, ont donné lieu à des infections chez l'homme. Pour 4 d'entre eux, il s'agit d'infections assez banales, en gros des rhumes. Et puis 2 qui ont donné des infections graves, c'est le SARS en Chine en 2003 et le MERS en la péninsule arabique un petit peu après. Il y a à nouveau une certaine variabilité, et par virus et par individu, mais on est plutôt dans l'ordre de grandeur de persistance d'anticorps pour 2-3 ans.
2-3 ans quand même, c'est pas mal. Donc on parlait de quelques mois,
c'est
si jamais
mal,
le SARS...
Ouais. Oui, ça... mais si vous faites l'extrapolation qu'on a tous envie de faire, qu'il en est de même avec le SARS-CoV-2, mais chaque virus a ses particularités, les réponses anticorps et les réponses immunitaires en général. Il n'y a pas tout à fait que les anticorps, il y a aussi ce qu'on appelle l'immunité cellulaire et lymphocyte T qui joue un rôle important, ou peut-être l'immunité est plus persistante, on n'en sait rien, mais en tous les cas, il n'est pas écrit à l'avance qu'il sera de même en ce qui concerne l'immunité contre le SARS-CoV-2 qu'à l'égard des autres coronavirus.
Je reviens sur ce que vous venez de dire. Vous avez parlé de l'immunité, en fait, de la mémoire cellulaire. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu en quoi ça consiste ? Parce que pour les gens, il y a juste cette histoire d'anticorps qui rentre en jeu, mais apparemment, il n'y a pas que les anticorps qui peuvent éventuellement nous protéger d'une réinfection. C'est quoi cette mémoire cellulaire ?
Vous avez raison. Il y a donc notre système immunitaire en ce qui concerne l'immunité, c'est un adjectif compliqué, adaptative. Donc c'est la mémoire des lymphocytes, une catégorie particulière de globules blancs. On a 2 types de globules blancs importants là. Les lymphocytes B, qui sont les cellules qui produisent les anticorps, dont on vient de parler, et les lymphocytes T, qui d'ailleurs ces 2 catégories de lymphocytes travaillent entre eux, si je puis dire, collaborent dans l'immunité. Les lymphocytes T responsables d'autres fonctions, par exemple de tuer des cellules infectées par un virus, très important pour se défendre contre un virus. Et ces 2 catégories d'immunité ont une mémoire. Alors ça peut paraître curieux, mais ça veut dire qu'une fois qu'une infection par un virus donné ou un microbe donné a eu lieu, il va persister en un nombre plus élevé qu'antérieurement de lymphocytes, aussi bien T que B, qui sont capables de répondre et de répondre en plus rapidement qu'ils ne l'étaient lors de la première réponse. Si bien que s'il y a une nouvelle infection avec le même virus, que ce soit le même ou qu'il soit très très proche, l'immunité se déclenche très très vite et du coup, en règle, il n'y a pas d'infection. C'est le principe sur lequel est fondée la vaccination.
Notre système immunitaire, il est quand même très très intelligent. Hein. Il y a d'autres ressources. Hein. Il y a vraiment des ressources que les patients ignorent complètement. Hein. Il y a des choses très complexes qui nous protègent aussi. Quoi,
mais c'est 500 millions pour cette immunité, de mémoire immunitaire. Nous avons derrière nous 500 millions d'évolutions des êtres vivants, et spécifiquement des vertébrés et des mammifères, qui ont fait le travail pour nous.
Bon, bah c'est génial. Merci professeur Fischer. On n'en a pas terminé avec vous. On se retrouve dans un instant.
Europe 1.
Dans quelques minutes, sans rendez-vous, votre émission Santé revient. Nous allons continuer à parler d'immunité vis-à-vis de ce virus qui bouleverse nos vies depuis le mois de mars. Le professeur d'immunologie Alain Fischer va nous éclairer encore juste après sur toutes ces questions. On parlera aussi des enjeux autour du vaccin, de la vaccination. Tout ça, c'est dans quelques toutes petites minutes. A tout de suite sur Europe 1.
Mélanie Gomez sur Europe 1. Europe 1.
Sans rendez-vous.
Mélanie Gomez.
Heureuse de vous retrouver dans Sans Rendez-vous, votre émission santé. Nous sommes ensemble comme chaque jour jusqu'à 16h. Alors il est toujours en ligne avec nous, le professeur Alain Fischer. Vous êtes professeur d'immunologie pédiatrique à l'hôpital Necker à Paris, professeur au Collège de France et cofondateur de l'Institut Imagine. Prof Fischer, vous nous avez expliqué juste avant qu'a priori donc les patients infectés développaient une certaine immunité qui reste encore à quantifier, à évaluer, on l'a compris. Mais comment expliquer alors que c'est quelques cas tout de même, je crois, publiés de patients qui auraient peut-être contracté une nouvelle fois la maladie ?
Alors, ces données, de ce que j'ai pu lire et comprendre, en fait, n'ont pas été confirmées. Ce sont des cas qui ont été évoqués en Corée, mais qui n'ont pas été confirmés comme étant de vrais réinfection. Donc pour l'instant, il faut toujours être très prudent, mais enfin, il n'y a pas clairement d'observation d'une seconde infection d'individus qui soit compétent, dont le système immunitaire est compétent.
Donc ce sont des réactivations plutôt de la première infection, comme s'il y avait une deuxième vague à l'intérieur du corps, quoi, c'est ça ?
Oui, alors le virus peut persister en tous les cas, pour être plus précis, au moins du matériel génétique du virus, de l'ARN, mais qui n'est peut-être plus infectant, peut persister un certain temps, même une fois que la réponse immunitaire s'est déclenchée et a été efficace. Mais en principe, ce n'est pas du matériel génétique, de l'ARN du virus, avec un virus entier capable de provoquer une infection. Donc je pense qu'on peut considérer que dans l'état des connaissances, il n'y a pas d'idée de deux infections ou de réactivation du même virus chez une personne, encore une fois, dont le système immunitaire fonctionne bien.
Docteur Jimmy Mohamed.
Alors désormais, les sérologies sont possibles, en tout cas pour certains, et c'est un peu la ruée. Les Français veulent absolument savoir s'ils ont eu ou pas le coronavirus, même s'ils n'ont pas eu de symptômes. Est-ce que vous pensez que ça vaut le coup de le faire ?
Non, dans l'état actuel des choses, sauf situation particulière, de personnes à risque, on peut penser en particulier au personnel soignant, la réponse est non. D'une part parce qu'il faut se méfier que seulement un certain type de tests ont été validés, et je pense que prochainement on devrait avoir cette liste, et d'ailleurs des tests qui seront, si j'ai bien compris, remboursés par la Sécurité sociale, et donc ils seront utilisés soit, et ça c'est important, pour faire des études en population, pour avoir une information générale sur la prévalence, combien de personnes ont déjà été infectées en France, et puis de suivre au cours du temps ce qu'il en est dans les différentes régions, soit encore une fois dans un but très très précis où un médecin se pose une question face à quelqu'un qui a des symptômes qui pourrait évoquer la maladie et qui dure depuis un certain temps, où la recherche des anticorps est utile au diagnostic, comme c'est utile dans d'autres circonstances. Mais non, l'idée n'est pas de se lancer dans un dépistage. Une recherche à tout cru des anticorps, en plus il y aura quand même toujours quelques faux négatifs, quelques faux positifs, donc il faut faire attention.
Donc ce que vous voulez dire, professeur Fischer, c'est que ces résultats, les résultats de ces tests réalisés donc, pour l'instant au bon vouloir des Français qui peuvent se les payer, puisque c'est 40 euros environ non remboursés, en dehors des professionnels de santé pour qui c'est maintenant remboursé, pour cela, l'intérêt individuel, il est quasiment nul, ça ne peut pas leur apporter une idée, un passeport d'immunité comme certains le croient, ça ne peut pas du tout leur dire vous êtes protégé au moins pour cet été, ça non hein.
Je pense qu'il ne faut pas rentrer dans cet exercice-là. D'une part, encore une fois, parce qu'il peut y avoir des erreurs, même si elles ne sont pas très nombreuses, il y aura toujours quelques petites erreurs et qu'il faut réserver ces tests. Donc, encore une fois, soit pour des études générales, soit pour des cas particuliers de personnes malades, comme cela est fait pour des tests d'anticorps pour d'autres microbes.
Jimmy ?
Aux États-Unis, il est possible de faire des autotests avec la PCR, le prélèvement sous forme de salive, mais aussi il existe des autotests avec la goutte de sang, avec une sérologie. Que pensez-vous de ces personnes qui pourraient le faire chez eux au domicile ? Je suppose que c'est plutôt aussi une mauvaise idée.
Là, on est exactement dans la même discussion. Il est bien important de distinguer ce que vous venez de faire. Deux types de tests. Le test qui recherche la présence du virus, qui permet un diagnostic relativement rapide d'une infection en cours. On détecte le virus, plus exactement le matériel génétique du virus, l'ARN, par les tests dits de RT-PCR, et le test d'anticorps qui témoigne qu'il y a déjà une réponse immunitaire, donc qui prend, comme on l'a dit tout à l'heure, quelques jours avant d'apparaître. Donc il y a des tests qu'on peut faire en laboratoire et des autotests, mais la pratique de l'autotest est de la même problématique que celle des tests en laboratoire, et en se méfiant en particulier pour commencer des tests non validés.
Et pour les autotests, de toute façon, la Haute Autorité de Santé les a pour l'instant déconseillés. Professeur Fischer, puisqu'on parle d'immunité, on va quand même passer à la question des vaccins. Du vaccin, il y a une centaine, voire plus d'équipes qui travaillent dans le monde sur un candidat vaccin à ce jour. Est-ce que c'est possible, malgré tous ces efforts, qu'on n'en trouve jamais de vaccin, en tout cas un suffisamment efficace ?
Mais la réponse est oui, même si je pense que ce n'est pas l'hypothèse la plus probable. On a des exemples d'autres maladies infectieuses pour lesquelles il y a une recherche extrêmement intensive de vaccins qui ont à ce jour échoué. On peut penser au virus du sida, le VIH, dans une moindre mesure de certains parasites, comme par exemple les agents du paludisme. Donc ce n'est pas exclu, même si dans le contexte de ce qu'on connaît aujourd'hui de la structure du virus et des réponses immunitaires contre ce virus, la probabilité d'arriver à inventer un, voire, espérons-le, plusieurs vaccins est plus grande que celle de l'échec.
Jimmy ?
Et puis même si on a une vaccination, on sait que les Français sont un peu réticents, on est un peu ambivalent vis-à-vis de cette piste. Je rappelle que vous avez présidé la grande concertation citoyenne sur la vaccination en 2017. Vous pensez que même si on a un vaccin un jour, les Français en voudront et se feront vacciner ?
J'espère bien. Là, ce serait absolument dramatique que les Français ou d'ailleurs d'autres personnes dans le monde ne se vaccinent pas. Parce que ce qu'on sait aujourd'hui à partir du taux moyen de contamination par une personne infectée d'autres personnes, c'est disons en gros 3, hein, pour une personne infectée, en moyenne on en infecte 3. Donc ça signifie par un petit calcul simple que si on arrivait à protéger environ 70% d'une population, l'épidémie s'éteindrait. Alors il faut aboutir à au moins 70% de personnes vaccinées, sachant que dans la population, il y a des personnes fragiles. Je pense en tout premier lieu aux personnes âgées, très âgées. Comme vous savez, ce sont ceux qui sont le plus à risque de décéder du Covid. Ce sont des personnes atteintes de maladies et qui sont immunodéprimées, qui ne se vaccinent pas facilement parce que leur corps n'est pas bien capable de s'immuniser. Donc, ce qui veut dire que pour la population en bonne santé, il faudra aller au-delà même, sans doute, un peu de ces 70%, non seulement pour protéger nous-mêmes, mais protéger les personnes vulnérables. C'est la notion de solidarité qui est très importante dans le concept de vaccination et donc qui doit s'appliquer pour le Covid comme pour d'autres vaccins.
Je ne vous apprends pas que pour la grippe, on n'y arrive pas, donc on verra bien. Hein. Peut-être que la crise qu'on vient de passer va changer. Voilà. On est à 50% un peu plus.
Pour la grippe, l'hiver prochain, il serait catastrophique qu'il y ait en même temps une épidémie de grippe, plus toujours la pandémie par le Covid. Les conséquences, et si, imaginons que nous ayons entre guillemets une mauvaise grippe l'année prochaine, plus sévère que celle qu'on a eue cette année, on pourrait avoir par la conjonction des deux infections, chez des personnes différentes, à nouveau une situation de tension dramatique sur le système de santé. Donc la conséquence évidente et logique, c'est qu'il va falloir cette année, à l'automne, pour ce qui est de la France métropolitaine, que les Français se vaccinent massivement contre la grippe.
Vaccin Covid l'année prochaine ou pas présent, en tout cas, vaccin contre la grippe, il sera là et il sera très important. Merci beaucoup.
Il faudra y aller.
Merci beaucoup, professeur Fischer, c'est très clair. Merci d'avoir été avec nous pour cet éclairage passionnant autour des questions de l'immunité. Merci encore.
Europe 1.
Dans un instant, avec le docteur Jimmy Mohamed, nous allons prendre le temps de répondre à quelques-unes de vos questions, celles que vous nous laissez sur le répondeur d'Europe 1. On y vient dans quelques toutes petites minutes. A tout de suite.
Mélanie Gomez sur Europe 1. Sans rendez-vous, 15h, 16h sur Europe 1. Mélanie Gomez.
Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre émission santé. À mes côtés, toujours bien sûr, le docteur Jimmy Mohamed est présent. On passe à vos questions, celles que vous nous laissez au 39-21, 50 centimes d'euros la minute. On va commencer par écouter celle d'une auditrice qui s'inquiète pour sa fille. On l'écoute.
Bonjour, je vous appelle parce que ma fille est suivie par un centre de PMA parce qu'elle a des difficultés pour avoir un bébé. Et j'en entends parler nulle part, ni aux informations, ni à la radio, ni dans les émissions médicales. Elle est en grande difficulté parce que le centre de PMA est fermé depuis le début du confinement, alors qu'au début de ses consultations, on la suivait et elle avait déjà été préparée pour une FIV. Psychologiquement, c'est très difficile pour elle. Elle n'entend parler que des problèmes de grossesse, de femmes enceintes, des joies autour d'elle, des femmes qui sont enceintes. Malgré le virus, visiblement, les gens sont ravis quand même d'avoir un bébé et c'est bien normal. Je vous en supplie, Mélanie Gomez, faites quelque chose à la radio. C'est très, très difficile pour elle. Merci.
Alors on entend évidemment la souffrance de cette auditrice. Alors pour vous répondre, nous avons fait appel au professeur Nathalie Massin. Elle est responsable du centre d'aide médicale à la procréation à l'hôpital intercommunal de Créteil. Elle nous explique d'abord comment ça s'est passé dans son secteur pendant le confinement.
Alors effectivement, on a dû arrêter tous les traitements puisqu'on a eu un message de l'agence de la biomédecine pour nous demander d'arrêter les traitements en considérant la crise sanitaire. Et puis les patients qui avaient commencé leur stimulation ont pu poursuivre leur stimulation pour aller jusqu'à la technique d'AMT, en l'occurrence par exemple une ponction des ovules, mais n'ont pas pu avoir le transfert frais, c'est-à-dire que les embryons ont tous été congelés. Donc en l'espace d'une semaine, 10 jours, tous les traitements se sont arrêtés de manière assez brutale. Et puis bien sûr, tous les gens qui étaient programmés, ont dû être déprogrammés et tentatives annulées. Donc on a dû rappeler toutes nos patientes interne pour leur expliquer. Ce qui était un petit peu plus compliqué, c'est qu'on leur a dit qu'on arrêtait, mais on n'avait pas de visibilité pour une date de reprise.
Alors justement, pour répondre à la question de notre auditrice sur comment les choses vont reprendre, on retrouve le docteur Massin.
Favoriser toujours la téléconsultation au maximum. Espacer les rendez-vous qui sont nécessaires en présentiel pour pouvoir préserver la distanciation. Éviter si possible un accompagnant, sachant que l'homme est partie prenante dans la prise en charge en AMP, mais si possible venir seul. Bien sûr, je pense qu'il n'y a aucun centre qui refusera d'avoir un monsieur qui vient avec sa femme. Et puis, il va y avoir un questionnaire qui est mis en place pour lesquels les couples doivent déclarer s'ils ont été malades ou en contact avec quelqu'un de malade ou qu'ils ont des signes ou de la fièvre, de la toux, d'autres signes, un problème de perte de l'odorat. Et si effectivement ils sont à risque d'avoir eu le Covid, dans ces cas-là, leur tentative sera reportée d'un mois. Et s'ils ont le Covid et une forme sévère, leur tentative pourra être même repoussée de 3 mois, bien sûr, pour des conditions médicales pour eux.
Voilà, j'espère que ces réponses vous apportent quelques éclaircissements et que, évidemment, le parcours de votre fille va pouvoir reprendre très rapidement en PMA. Alors, on va passer à une autre question, Jimmy. C'est celle de Jacques, dans l'Essonne, qui s'interroge sur la maladie de Kawasaki chez les enfants, en lien peut-être avec le coronavirus. Il demande si c'est vrai qu'on a trouvé un traitement pour les enfants atteints.
Alors, tout d'abord, déjà, c'est pas vraiment une maladie de Kawasaki. C'est quelque chose qui ressemble. On parle de pseudo-maladie de Kawasaki, avec soit une phase inflammatoire avec de la température, avec ou sans atteinte cardiaque. Certains enfants ont que la maladie et pas les causes cardiaques sous-jacentes comme la myocardite. En ce qui concerne le traitement, il est déjà bien codifié. Il repose sur les immunoglobulines et les anti-inflammatoires. Et puis, lorsqu'il y a une défaillance cardiaque, on traite cette défaillance avec des catécholamines, des drogues qui permettent de refaire monter la tension en quelque sorte. Et dans certains cas, on a dû assister à des circulations extracorporelles, c'est-à-dire qu'on remplace le cœur par une machine pour que l'enfant puisse survivre. Alors heureusement, ces traitements sont plutôt bien codifiés. Malheureusement, un décès est survenu, mais il n'y a pas de traitement spécifique lié au coronavirus, même si pour l'instant, les enfants qui ont eu cette pathologie ont été en contact avec le Covid, soit par une PCR qui est revenue positive ou une sérologie, mais on ne sait pas s'il n'y a pas, par exemple, des co-infections qui pourraient aussi entraîner cette maladie. Donc voilà, un traitement qu'on connaît déjà, on ne l'a pas découvert avec le coronavirus.
Très bien, merci beaucoup Dr Jimmy Mohamed pour toutes ces précisions.
Europe 1.
Dans un instant, votre émission Santé revient dans son rendez-vous. On continue de vous informer tous les jours, mais on essaye aussi de vous faire du bien. Et justement, on va parler d'hypnose et de ses bienfaits, avec même une séance juste pour vous les auditeurs d'Europe 1. Tout ça, c'est dans quelques minutes. On passe en mode zen dans son rendez-vous. Restez avec nous sur Europe 1.
Mélanie Gomez vous reçoit sans rendez-vous sur Europe 1.
Sans rendez-vous revient dans quelques minutes en mode détente. En ce jour férié, on va vous proposer une séance d'hypnose en direct avec Sabine Marin, animatrice sur Europe 1, mais aussi hypnothérapeute. Mais avant ça, on va écouter un peu de musique avec le groupe In Excess, c'est Never Tease Us Apart.
Don't ask me what you know is true. Don't have to tell you I love your precious heart. I was standing, you were there. Two worlds collided and they could never tear us apart.
écouter le groupe In Excess sur Europe 1 et leur titre Never Tears Us Apart.
Europe 1, Mélanie Gomez.
De retour sur Europe 1 avec le docteur Jimmy Mohamed pour votre émission Santé. À présent, on va tenter de vous faire du bien. Et pour nous aider dans cette mission, nous sommes rejoints par Sabine Marin. Bonjour Sabine.
Bonjour Mélanie, bonjour tout le monde.
Vous êtes hypnothérapeute et nos auditeurs, bien sûr, vous connaissent évidemment car vous êtes aussi animatrice de la Libre Antenne Week-end sur Europe 1. Mm-hmm. Sabine, avant de commencer cet entretien, je voulais quand même profiter de cette intervention, de votre venue dans notre émission pour vous souhaiter un très joyeux anniversaire.
C'est gentil, merci beaucoup.
Parce que c'est votre jour aujourd'hui, hein, c'est l'Ascension, mais c'est aussi votre anniversaire.
Exactement. Bon,
très bien, mais joyeux anniversaire Sabine en tout cas. Alors si c'est votre jour, c'est plutôt quand même vous qui allez nous faire un cadeau tout à l'heure, hein, puisque vous allez nous proposer une petite séance d'hypnose en direct. Avant ça, dites-nous quand même, le contre-coup psychologique du confinement, moi j'ai l'impression, mais vous allez me dire si vous confirmez auprès des gens qui vous consultent, est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'il est maintenant, face à tout le stress qu'on a traversé, est-ce que c'est pas maintenant comme s'il y avait un choc un peu post-traumatique?
Oui, vous avez raison, moi j'ai remarqué deux choses parmi les gens qui m'appellent en ce moment. Beaucoup de femmes qui sont épuisées parce qu'elles ont l'impression d'avoir porté leur famille à bout de bras pendant le confinement. Beaucoup ont l'impression d'avoir des maris qui sont redevenus des ados, qui n'ont pas pris les choses en main, donc elles sont vraiment fatiguées physiquement et nerveusement. Et puis beaucoup de gens qui ont tenu parce qu'il fallait tenir, comme souvent, comme vous dites, quand on est dans le cœur de la tempête, on n'a pas le choix, on tient, et qui craquent maintenant, et qui relâchent. Ça, c'est, tout ça, c'est générateur de stress. Mais j'aimerais vous dire deux, trois trucs à propos du stress. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas forcément une émotion négative, le stress. En réalité, il n'y a pas d'émotions négatives ou positives. Il y a que des émotions qui sont adaptées à la situation ou pas. Si vous êtes poursuivi, par exemple, par une horde de loups affamés, un bon coup de stress, c'est plutôt sympa parce que ça va vous aider à courir plus vite que les loups.
Ça m'aide à survivre. Oui.
Exactement. Mais le même stress dans les embouteillages, non seulement ça vous servira à rien, mais à long terme, ça va être recyclé en ulcère. Donc, c'est pas une bonne idée. Donc, s'il faut vous demander quand il y a un coup de stress, quel qu'il soit, c'est est-ce que je suis dans la bonne émotion par rapport à la situation que je vis maintenant ? Oui ou non ? La plupart du temps, si on est honnête, c'est non. Et dans ces cas-là, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas forcément la situation qui crée mon état interne de stress, c'est ce que je me dis, ce que je me raconte à moi-même de la situation. Et là, pour ça, j'ai un petit truc que j'appelle la règle des quatre jeux. Quand il se passe quelque chose, on n'interprète pas, on se répète à soi-même « je ne sais rien, je ne pense rien, je ne crois rien, je me concentre sur les faits ».
Ah, c'est intéressant, effectivement. Je vais la retenir, celle-ci.
La règle des quatre jeux. Je ne sais rien, je ne pense rien, je ne crois rien, je me concentre sur les faits. Parce que comme vous dites, quand vous parlez de stress post, effectivement, oui. Post-confinement, mais c'est ça qui est intéressant. Le stress, il vient me dire quoi ? Il vient me dire que qu'est-ce qui me stresse vraiment ? C'est ce qui m'arrive là tout de suite ? Ou c'est ce qui m'est arrivé ? Et si c'est ce qui m'est arrivé, c'est passé. Donc c'est intéressant de se recentrer. Donc j'aime bien cette petite règle des quatre jeux.
C'est pas mal, c'est vrai, je suis d'accord avec vous. Je vais retenir ça, je vais l'utiliser, je vous promets. Jimmy, à vous.
Sabine, je crois que vous pratiquez aussi le câlin du papillon. Qu'est-ce que c'est ? Moi je connaissais le bisou esquimau, mais le câlin papillon... Alors, on a vu le bisou esquimau, c'est pas pour tout de suite. Hein, avec le
c'est ce que j'allais vous dire,
c'est l'effet papillon. Mais...
Ouais, le butterfly hug, oui, c'est un truc tout simple. Quand on est en mode panique, tout seul, soi-même, quand on commence à sentir ces effets de stress, que la respiration est... Vous connaissez ce côté, j'arrive plus à respirer, ça va plus, ça va pas. Au lieu de se dire ça va pas justement, on se répète les règles du quatre jeux et puis on met ça, on se prend soi-même dans les bras, c'est-à-dire qu'on met sa main droite sur l'épaule gauche, on met la main gauche sur l'épaule droite, donc ça croise les coudes. Et tout simplement en respirant, on soulève les coudes jusqu'à la hauteur du visage, en inspirant. Et en expirant, on rebaisse les coudes. Ça fait comme le vol d'un papillon. Et tranquillement, en se serrant comme ça dans nos bras, nous-mêmes, et en calmant notre respiration en suivant ce rythme, on se fait du bien très rapidement. Ça apaise.
C'est un autocâlin en fait. Hein,
c'est ça, un autocâlin avec ce mouvement tout doux de monter les coudes quand j'inspire et de baisser les coudes quand j'expire. Voilà. Et on part comme un papillon tranquillement pour juste calmer un petit peu la machine.
D'ailleurs, pour dire que Serge, notre réalisateur, est en train de se faire un câlin papillon.
En fait. Je ne le vois pas, mais
il était zen.
Et il va mieux.
Et là, il a le sourire, là, donc c'est pas mal.
Non, mais je comprends tout à fait comment ça fonctionne. Ça a l'air intéressant aussi. Sabine, il est important de rappeler quand même, parce que donc, vous êtes hypnothérapeute. Oui. L'hypnose, ça s'apprend quand même, ça doit être fait au moins pour démarrer avec un professionnel. Ce qu'on trouve sur YouTube, parce qu'il y a plein de tutos, de choses qui circulent, notamment depuis le confinement, ouais. C'est pas vraiment de l'hypnose ?
Alors c'est toujours pareil, il y a à boire et à manger, il y a de très bonnes choses, comme il y a de très mauvaises, il y a du n'importe quoi. Il faut être juste, avoir du bon sens et comprendre que c'est pas l'hypnose thérapeutique, vous n'allez pas vous soigner avec ce que vous trouvez sur internet. En revanche, vous pouvez vous apaiser avec une voix qui vous plaît, une musique qui vous plaît et un texte un petit peu relaxant, mais c'est pas de la thérapie, c'est de la relaxation accompagnée.
Docteur Jimmy Mohamed.
Et justement Sabine, est-ce que le fond musical est très important? Comment est-ce qu'on choisit justement sa musique?
Vous voulez dire en cabinet ou soi-même sur internet?
Même soi-même, hein. Est-ce qu'il faut forcément quelque chose de relaxant ou même en cabinet en fait? C'est peut-être la même chose d'ailleurs, peut-être la même réponse.
Alors, pour moi, ce qui compte, c'est vraiment, il faut que ça vous parle à vous. La plupart du temps, je propose une ou deux musiques différentes à mes patients pour qu'ils puissent choisir eux-mêmes ce qui leur convient. Ce qui est important de comprendre, c'est quand on fait une séance d'hypnose, la musique est un ancrage auditif. Ça veut dire que moi, je laisse cette musique sur une clé USB à la personne qui a fait la séance et elle va la réécouter pendant un mois tous les jours. Et c'est vraiment un ancrage. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'elle va la réécouter, son inconscient va refaire ce voyage. Et ça lui fera du bien et de plus en plus de bien au fil du temps. Maintenant, quand vous écoutez sur Internet, même chose, choisissez quelque chose qui vous parle. Écoutez l'émotion que vous ressentez. C'est comme quand vous choisissez un disque, une musique. Écoutez l'émotion que vous ressentez.
En fait,
exactement.
Ouais. Ouais, d'accord.
Cela dit, pardon, mais on a un peu de mal à se relaxer avec du hard rock. Cela dit, ça reste quand même plus souvent dans des sons. Hein,
mais c'est plus
pourquoi
rare,
pas.
Je crois.
Pourquoi pas.
Une séance d'hypnose, Sabine, lorsqu'on en sort, moi j'en ai déjà pratiqué en cabinet avec un thérapeute. Lorsqu'on en sort, c'est vrai qu'on se sent beaucoup mieux, ça on le sait. Mais est-ce qu'il y a des bienfaits à plus long terme, par exemple, je sais pas, le lendemain ou les semaines d'après, ou est-ce qu'il faut vraiment faire ça régulièrement? Je ne sais pas.
Bah, a priori, quand vous faites une séance tabac et que vous avez arrêté de fumer, les bienfaits, ils sont définitifs. Ou en tout cas, sur du très très long terme. Quand vous travaillez sur la confiance en vous, quand vous l'avez récupérée, c'est pareil. Vous savez, la chenille, quand elle est devenue papillon, elle ne redevient pas chenille.
Ouais, donc ça dure quand même. Mais effectivement, si c'est juste pour des questions de stress, en tout cas, ça peut ne pas être réglé en une séance, on est d'accord. Enfin, de stress chronique, un petit peu, je dirais.
Alors là aussi, c'est important de comprendre où est la cause, où est la conséquence. Un stress, on peut se sentir, comme vous dites, très très bien tout de suite, mais il faudra y revenir. Et puis après, il faudra peut-être travailler sur le pourquoi je stresse régulièrement. Qu'est-ce que ça dit de moi, de mon histoire? Qu'est-ce que j'ai appris? Pourquoi est-ce que j'ai appris inconsciemment à stresser tout le temps plutôt que de gérer les choses avec calme? Et là, on peut faire un travail de fond qui sera probablement bénéfique plus longtemps.
Sabine, on va s'arrêter quelques minutes, on n'en a pas terminé avec vous.
Europe 1.
Dans un instant, on passe à la pratique. Sabine Marin va nous aider à ressentir, même si c'est pour quelques minutes, les bienfaits de l'hypnose avec une petite séance qu'elle a préparée uniquement pour vous, auditeurs d'Europe 1. On prend soin de vous dans cette émission. Mais là, vous allez voir, ça va prendre tout son sens. Alors déchaussez-vous, installez-vous bien confortablement et on revient très vite sur Europe 1.
Sans rendez-vous, 15h, 16h sur Europe 1. Mélanie Gomez.
Votre émission Santé sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h en compagnie du docteur Jimmy Mohamed. Alors elle est toujours en ligne avec nous, Sabine Marin. Vous êtes hypnothérapeute et bien sûr, les auditeurs d'Europe 1 vous connaissent puisque vous êtes aussi animatrice de la Libre Antenne Week-end sur Europe 1. À présent, Sabine, je vais vous céder la place, on va vous écouter. Jimmy et moi, on va se mettre nous aussi en position détente avec le casque sur les oreilles. Il n'y a pas de raison qu'on n'en profite pas aussi. Mm-hmm. C'est à vous Sabine.
Et je vous souhaite un bon voyage. Alors où que vous soyez, commencez, si vous le voulez bien, à prendre une position confortable. Accordez-vous ce moment pour vous, où plus rien d'autre n'a d'importance que vous. Vous et cette reconnexion à l'équilibre, à la sérénité. Une position confortable et vous fermez vos yeux, comme on ferme les rideaux pour se retirer un moment du monde extérieur. Et quand on ferme ses yeux, il y a comme un moment de flottement. On met en pause quelques instants l'un de nos sens, la vue. En fermant les yeux, on déplace sa concentration vers les oreilles. On perçoit mieux les sons, ma voix, cette musique. On déplace aussi sa concentration sur les sensations. On ressent le support sur lequel on est installé. On peut même ressentir ses vêtements sur la peau si on y prête attention. Sentir la température de l'air qui nous entoure. Et on peut ressentir le mouvement de notre respiration qui fait comme des vagues qui montent et qui descendent. Cette respiration qui naturellement devient plus calme, plus fluide, plus profonde. Les sons, les sensations, la respiration et des images qui forcément se succèdent. Quelquefois, c'est juste la liste des courses à faire ou un truc qu'on a oublié de dire à quelqu'un. Et puis, ça se mélange petit à petit avec des pensées, des souvenirs, d'autres images réelles ou imaginaires. Quand on entre dans un état d'hypnose, on laisse place à sa créativité. On se reconnecte à une partie de soi où tout devient possible. Le ici peut devenir là-bas ou ailleurs. Le ailleurs peut être ici et ressembler à là-bas, et au final, c'est vous qui décidez où il est bien que vous soyez à présent. C'est votre inconscient qui commence à se manifester. Accueillez-le avec plaisir. Abandonnez-vous à cette étrange et agréable sensation. Laissez le mental penser à ce qu'il veut et suivre sa propre voie. Et portez votre attention sur ce que votre imagination vous propose. Pour commencer, à lâcher prise. Notre mental est persuadé que plus on garde le contrôle, plus on est en sécurité, mais c'est faux. La situation ressemble souvent à une partie de tir à la corde avec un horrible monstre. Il est énorme, très vilain, d'une force peu commune. Entre vous et le monstre, il y a un ravin qu'on dirait bien sans fond. Si vous perdez cette partie de tir à la corde, vous allez tomber dans ce ravin et y disparaître. Alors vous tirez tant et plus. Mais plus vous tirez fort, plus il vous semble que de son côté, l'horrible monstre tire plus fort lui aussi. En fait, il vous semble bien que vous vous rapprochez de plus en plus dangereusement du bord du précipice. La chose la plus difficile à réaliser, c'est que votre tâche n'est pas de gagner au tir à la corde avec ce monstre. Votre tâche, c'est de lâcher la corde. Retrouvez votre calme et votre sérénité. Concentrez-vous comme quand quelque chose vous intéresse et que vous y prêtez toute votre attention. Vous allez être capable d'entrer de plus en plus avec bonheur vers votre monde intérieur. Imaginez que vous pouvez trouver à l'intérieur de ce monde un endroit magnifique, un lieu presque magique, qui ne ressemble à rien de réel. C'est lumineux, apaisant. Et vous vous y sentez particulièrement bien. Un endroit de sécurité, un endroit de bien-être. Et ce lieu est un lieu de rencontre. Laissez votre imagination explorer cet endroit. Remarquez ce que vous y voyez. Et comment vous voyez tout ce qui s'y trouve. Remarquez s'il y a des sons dans cet endroit que vous pouvez entendre. Ou au contraire, si c'est extrêmement silencieux, parce que peut-être pour vous, c'est le silence qui vous protège. De plus en plus calme, de plus en plus détendu, vous commencez à flotter, à entrer en contact avec des sensations agréables, un sentiment de bien-être profond. Et dans cet espace de bien-être absolu, cet espace magique où tout est possible, vous allez rencontrer votre étoile. Celle qui, un peu comme un ange gardien, veille sur vous depuis que vous êtes né. Peut-être vous étiez-vous perdu de vue, elle et vous, depuis tout ce temps, mais elle est là. Elle brille toujours pour vous. Prenez-la dans vos mains. Sentez toute la protection qu'elle apporte à votre cœur, toute la douceur et la sérénité qu'elle offre à votre esprit. Glissez-lui à l'oreille votre vœu le plus important, quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Et remerciez l'univers comme si votre vœu était déjà exaucé. Cette étoile qui brille chaque jour au-dessus de vous et dans votre cœur, vous pourrez la retrouver chaque soir en admirant le ciel. Elle est là, comme des millions d'autres étoiles qui viennent mettre de la lumière dans nos nuits. Votre voyage d'aujourd'hui va maintenant se terminer en douceur, mais les mots ne s'en vont pas, les paroles ne s'en vont pas. Elles se déposent et continuent à voyager en vibrations subtiles, en invitations silencieuses. Vous allez maintenant pouvoir faire le chemin inverse, reprendre doucement conscience de votre présence dans la pièce dans laquelle vous êtes, reprendre une grande respiration pour faire remonter toute l'énergie nécessaire à la suite de cette journée, bouger, vous étirer tranquillement à votre rythme et revenir ici et maintenant en ouvrant simplement vos yeux. Merci.
Merci, merci, merci beaucoup à vous, Sabine Marin, d'avoir été notre invitée. Merci pour cette mini séance d'hypnose qui nous a fait, qui vous a fait, je l'espère aussi, souffler, vous détendre quelques minutes. Merci encore, Sabine.
Avec grand plaisir. Au revoir.
15h, 16h, sans rendez-vous sur Europe 1.
Dans un instant, ce sera la chronique sexo de Catherine Blanc, comme tous les jours à la fin de cette émission. Mais avant ça, on va écouter un peu de musique avec Vianney et son titre « N'attendons pas ».
Il est lundi, maudit matin, ce que je fais ne me plaît pas, c'est décidé d'ici demain, c'est plus moi. Il est parti, l'amour au loin, j'en ai pleuré pendant des siècles, c'est décidé d'ici demain, je m'arrête. Je fais de la vie mon drapeau, je vois la vie comme un cadeau, on n'a pas le temps de se lasser. On n'a pas le temps de se tasser, on n'a pas le temps de languir. On n'a pas le temps, mais des années. On n'a pas le temps, non, mais la paix. On n'a pas le temps de languir. N'attendons pas. Jamais venu l'ami, l'ami qui promettait la lune. Demain je décroche sans lui, Saturne. Il n'est jamais venu le train qui mène au paradis. Demain je mène mon chemin sans lui. Je fais de la vie mon drapeau.
C'était le chanteur Vianney et son titre « N'attendons pas ».
Europe 1, Mélanie Gomez.
La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15h, toujours à mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed. Et pour cette dernière séquence de l'émission, nous accueillons en ligne notre sexologue et psychanalyste Catherine Blanc. Bonjour Catherine.
Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy.
Bonjour Catherine.
Alors, la question sexo du jour est posée par Karima. Avec mon mari et mes enfants, nous sommes encore confinés chez ma sœur qui a une grande maison et un jardin. Pour des raisons de confort, nous poursuivons le télétravail dans la maison. Problème, nous dormons dans la même chambre que nos enfants et cela nous bloque sexuellement. Que faire ? Catherine, c'est vrai que dormir dans la même chambre que ses enfants, hein, certains l'ont expérimenté pour les vacances par exemple, ça peut bloquer un petit peu la sexualité du couple quand même.
Et c'est heureux. C'est heureux parce que
oui, ça, c'est sûr.
Ce n'est pas du tout le cadre dans lequel la sexualité doit se faire. Non pas parce que ce ne serait moche, bien évidemment que non, c'est la plus belle des histoires entre un homme et une femme ou entre deux hommes ou deux femmes. Qu'importe, en tout cas, c'est une merveilleuse histoire que se racontent deux individus. Et les enfants sont toujours très curieux de ce qui se passe entre un papa et une maman. Toujours l'oreille tendue, les yeux au bon endroit ou au mauvais, selon de quel point de vue on se place, mais en tout cas pour répondre à leur curiosité. Ne les prenons pas pour des imbéciles, même quand ils dorment, il ne faut pas grand-chose pour qu'ils se réveillent, tant leur curiosité est alertée par le moindre bruit, souffle, respiration haletante. Donc ce n'est absolument pas le lieu en se disant que voilà, ils dorment, voilà, maintenant on est tranquille, etc. Parce que nous n'avons pas à solliciter l'excitation de nos enfants, puisque elle est normale, elle est naturelle, ils se construisent avec ça. Mais entre l'excitation de leur construction et la rencontre du réel, il y a une marge considérable qui est à respecter, sans quoi l'enfant a le sentiment de participer de la sexualité parentale et du coup ça prend des allures non pas incestueuses mais incestuelles, c'est-à-dire que dans la forme, dans la construction psychique, eh bien il y a le sentiment d'avoir participé de cette scène érotisée entre le père et la mère, ce qui crée de gros dommages. Donc effectivement que ça bloque les parents, c'est une très bonne chose, et puis c'est pas parce que ça les bloque que leur sexualité en est pour autant bloqués, à eux d'inventer comment leur sexualité peut se faire en dehors, dans les regards, dans les moments où ils se croisent, dans les moments où peut-être s'accorderont-ils des moments de tendresse, de baisers, mais déjà voyez-vous ce qu'un baiser fait dans l'esprit des enfants qui disent ah, « caca, oh, c'est horrible ». Donc il n'est pas question de les exposer plus que cela, et se dire que ce temps peut être aussi un temps pour nourrir l'érotisme.
Plutôt,
et la sensualité pour le moment où on retrouvera chacun ses pénates.
Ouais. Docteur Jimmy Mohamed.
Bon, enfin, d'accord, mais il y a quand même eu plus de 2 mois de confinement. Je ne vais pas dire que ça commence à être long, mais ça, je crois que c'est un autre débat. Mais à partir de quel âge ça devient problématique, Catherine ? Est-ce qu'un enfant, je ne sais pas, un nourrisson de 6 mois, je ne dis pas qu'on peut le faire, mais est-ce que c'est peut-être moins grave qu'un enfant de 2-3 ans ? Est-ce qu'on se fixe une limite ou même un bébé, mieux vaut éviter d'avoir des rapports sexuels dans la même pièce ?
Non. Et puis en plus, là, nous parlons de culture. Imaginez que vous soyez africain, vivant dans la même case, et tout le monde participe, bien sûr. Ouais. Absolument. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est le développement psycho-affectif d'un enfant. C'est-à-dire que jusqu'à 2 ans et demi, 3 ans, de toute façon, il n'est pas question de sexualité pour lui. Donc il ne voit pas les choses d'un point de vue sexué. Donc ce qui se joue autour de lui, il le ressent simplement en tension, positive, négative, sans d'ailleurs jugement là-dessus. Mais il n'a pas le sentiment de participer, si ce n'est par les brusqueries des tensions relationnelles qui se jouent, ou les douceurs relationnelles qui se jouent. Donc un nourrisson, en effet, dans la chambre à coucher, n'est pas emmêlé à une histoire de sexualité. Évidemment qu'il est important que les parents ne le mêlent pas à cela, ça c'est dans leur jeu érotique, évidemment. Et puis la seule difficulté... Voilà, mais
là,
ça ne l'est pas.
On frôle le malsain, sinon, faut... là. Oui, d'accord.
Voilà, donc c'est pour ça qu'il est important de le dire. C'est pas parce qu'on a dit qu'il n'y avait pas de sexualité qu'on peut prendre l'enfant comme un objet, de quelque manière que ce soit, même en le faisant spectateur et en s'en amusant d'une certaine manière. Et en fait, le seul dommage quand l'enfant est nourrisson, c'est que, sentant sa mère à proximité, il a un sommeil qui est de moindre qualité, puisqu'il est toujours prompt à essayer de créer le lien, à réclamer d'être nourri, parce que il est ainsi fait dans ce premier temps de vie. Maintenant, à partir de 2 ans et demi, 3 ans, là, il devient il entre dans la conscience de son genre et dans la conscience du genre des autres, donc dans le rapport à la sexualité. C'est le moment aussi de l'Œdipe, donc c'est le moment très érotisé de l'enfant dans son lien avec ses parents, et c'est du coup évidemment ce moment où il faut absolument éviter de lui laisser penser qu'il puisse participer de quelque érotisation du couple parental. Et ensuite viendra le temps des 6 ans où de même lui-même sera très dérangé par la présence de la nudité, la sienne, dans le regard des parents ou celle des parents, à la fois dérangé mais en même temps curieux. Et c'est là que nous devons être particulièrement vigilants pour l'en protéger, parce qu'il est dans un mélange de curiosité et de demande, tout en étant très inquiet à l'idée qu'il puisse recevoir les réponses physiques à sa curiosité.
Bon, et puis Catherine, pour terminer, il y a quand même des astuces à trouver. Enfin, je veux dire, il n'y a pas que la chambre. Enfin, on peut trouver des moyens de s'organiser.
Il n'y a pas que la chambre. Après,
je veux dire, il faut être un peu inventif aussi.
C'est ça. Après, elle est chez sa sœur. J'imagine que ça ne va pas non plus aller faire dans le couple, avec le couple dans l'autre chambre non plus. Ça serait pas une très bonne idée de faire dans le mélange des genres. Par contre, évidemment, encore une fois, la sexualité ne démarre pas dans un lit et n'est pas une histoire seulement de coït. C'est une histoire de tendresse. Ça se construit tout au long d'une journée. Il y a des tas de moments où on n'a pas les enfants dans les pattes. C'est peut-être l'occasion de réaliser qu'on a souvent les enfants dans les pattes et qu'on ne sait pas les tenir aussi à bonne distance. On leur offre pas des espaces où ils peuvent, eux aussi, parce que eux aussi ont besoin d'un espace à eux, un espace pour jouer, un espace où ils ne sont pas toujours à vue des parents. Donc c'est une occasion de se poser la question de pourquoi on est tous mêlés en mêlés. Et est-ce que ça ne ferait pas du bien à tout le monde, les enfants y compris, de temps en temps trouver un peu d'espace. Donc soyons inventif pour les libertés et qui plus est pour la sexualité.
Merci beaucoup Catherine pour tous ces conseils. Merci Jimmy. On se retrouve bien sûr demain et en studio tous les deux pour le moment. Hein. Catherine, on vous retrouvera bien sûr très vite. Vos questions à vous qui nous écoutez au 39-21, 50 centimes d'euros la minute sont toujours les bienvenues. À présent, je vous laisse avec Mathieu Noël et son équipe Sauvage. Bonjour Mathieu.